Tribu, Catherine Erard.
Pourquoi un policier tient le choc? Pourquoi un autre craque? Est-ce la confrontation à la violence verbale, psychologique, physique, à la mort qui fragilise? Ou bien les horaires décalés, le travail de nuit, les week-ends, le manque d'effectifs qui use? Ou encore la relation avec les collègues, les chefs, la hiérarchie qui démotive? De toute évidence, assurer la sécurité, représenter la justice et l'ordre dans notre société est une tâche complexe et parfois écrasante. Le fait d'être passionné par son travail est-il à tenir sur le long terme? Pas si simple. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un métier où il est encore plus difficile d'être confronté à sa faiblesse, où il est encore plus dur de l'accepter et d'en parler. Difficile de craquer quand on est flic et qu'on se doit d'être solide et fort. Pourtant, le burn-out ne les épargne pas. Notre invité a pris le pouls des policiers romands à travers un questionnaire auquel près de 900 d'entre eux ont répondu. Elle a également recueilli les confidences de ceux et celles qui flirtent avec le burn-out. Elle en a fait son travail de thèse qui vient d'être publié. J'ai donc le plaisir de recevoir une toute fraîche docteur en psychologie, Magdalena Bourba. Bonjour.
Bonjour Catherine.
Vous êtes également psychothérapeute. Alors dans tout ce que vous avez pu entendre, quelles sont les situations les plus pénibles, les plus usantes qui reviennent dans les témoignages des policiers?
Alors on pourrait penser que ce sont les situations de la vie quotidienne des policiers qui sont les plus usantes, comme le fait d'être confronté quotidiennement à des insultes, à des injures, à des actes d'intimidation, d'être confronté à de la violence, être exposé à cette violence physique et psychologique. Et pourtant, ce n'est pas le facteur de stress le plus rapporté par les policiers. Ce que les policiers évoquent principalement, ce sont les tensions relationnelles à l'interne. S'il y a des conflits avec les collègues ou des tensions avec les chefs, ces tensions répétées sont plus destructrices que finalement des interventions du quotidien. Ils aiment la stimulation, les policiers. Ils aiment pouvoir intervenir sur des tâches complètement différentes. Donc c'est très stimulant finalement le quotidien. Par contre, s'il y a des stress quotidiens avec la hiérarchie et avec les collègues, c'est plus destructeur pour eux.
En fait, le terrain, c'est plutôt ce qui va les motiver, les dynamiser. Et quand on doit retourner dans le bureau, taper ses rapports, etc., c'est là où c'est plus complexe.
Voilà, tout à fait. Oui. C'est le manque de soutien et le manque de communication qui a été principalement pointé du doigt par les policiers. Ils aimeraient une hiérarchie davantage présente, davantage à l'écoute. Un policier recommandait à la hiérarchie de descendre de sa tour d'ivoire simplement pour dire bonjour. Donc, simplement être plus présent et à l'écoute des policiers.
Donc l'image qu'on a un peu, qu'on a dans les films, hein, de ces équipes de policiers, pour les vieux, à la Starsky et Hutch, qui sont bien liés entre eux, où il y a vraiment un soutien, c'est pas forcément la réalité.
C'est pas forcément la réalité, mais les policiers ont envie d'avoir davantage d'esprit d'équipe, d'esprit de corps, d'être davantage en lien, dans une solidarité ensemble.
Mais quand même, le terrain, le fait d'être, bon, vous le disiez, d'être confronté à la violence, etc. Est-ce qu'il y a des éléments du terrain qui sont quand même compliqués?
Bien entendu, il y a des éléments du terrain qui sont compliqués, mais c'est peut-être pas ceux dont on penserait le plus. C'est le travail administratif qui est le plus lourd chez les policiers. C'est-à-dire que la paperasse est envahissante, les procédures sont extrêmement lourdes, et du coup, ça les amène à, finalement, faire l'impasse sur des choses qu'ils jugent importantes et faire passer l'administratif qui pour eux est secondaire. Ce manque de qualité, hein, de prise en charge va amener un manque de sens finalement chez les policiers. Le manque de sens qui se retrouve à plusieurs niveaux, comme par exemple arrêter à plusieurs reprises le même multirécidiviste, sans cesse, hein, avoir... être confrontés aux mêmes personnes et 3 jours après elles sont relâchées, ils doivent à nouveau les arrêter et ils perdent en crédibilité face à ce manque de sens. Le manque de sens aussi lorsque l'enquête coûte plus cher que le vol. Cette perte de sens est vraiment importante.
On sent que ça les use. Est-ce que le fait aussi, on imagine que comme d'autres métiers, il y a beaucoup de travail, il y a de surcharge. Est-ce qu'aujourd'hui, les policiers qui travaillent en Suisse romande disent qu'il manque d'effectifs ou qu'est-ce qu'ils disent?
Alors, les policiers interviewés, effectivement, pointent du doigt le manque d'effectifs, la surcharge de travail. Or, ce n'est pas forcément l'élément le plus usant qui a été rapporté dans l'étude quantitative. C'est-à-dire que la charge de travail peut aussi amener à l'engagement. Il faut un certain niveau de charge pour s'investir. Et un excès d'engagement pourrait être le point de départ d'un burn-out. Les éléments qui sont le plus en lien avec le burn-out, c'est le manque d'autonomie, le manque de soutien social, de soutien de la hiérarchie et le sentiment d'injustice, par exemple, ainsi que la personnalité.
Alors, on va revenir sur ces différents facteurs. Est-ce que, Magdalena Bourba, il y a plus de burn-out parmi les policiers que dans d'autres professions ?
Je ne dirais pas forcément plus de burn-out chez les policiers que dans d'autres professions. Par contre, c'est plus difficile d'en parler au sein de la police. Étant donné que la virilité est valorisée au sein de l'institution, un policier se doit d'être fort, se montrer stable. Et puis, s'il montre une faille, son coéquipier pensera qu'il ne pourra plus compter sur lui. Donc c'est important tout de même, hein, cette image de force entre eux. Et puis, finalement, si on ne peut pas en parler, c'est délicat pour eux d'en parler, étant donné qu'ils ne se sentent pas suffisamment en confiance avec les services internes d'aide, par manque de confidentialité. Hein. Donc, quand on n'en parle pas, quand on garde ça pour soi, ça risque de s'empirer d'une manière assez dévastatrice. Et chez les policiers, il y a un accès à une arme de service. C'est ça qui peut être dramatique. Une policière me disait qu'elle y avait déjà pensé, tout simplement parce que c'était facile, l'arme était à disposition et qu'elle savait que ça ne faisait pas mal. Donc les conséquences peuvent être plus dramatiques lorsqu'un burn-out se développe dans le silence.
On a vu en France ces derniers mois une montée du taux de suicide parmi les policiers. Est-ce que c'est aussi une réalité présente en Suisse romande, peut-être moins importante, mais est-ce qu'il y a également des suicides de policiers ?
Alors, je ne suis pas au courant des statistiques par rapport au nombre de suicides. Certaines études vont mettre en avant le fait qu'il y a plus de suicides chez les policiers, et puis d'autres disent que c'est comparable à d'autres professions.
En tout cas, votre impression, c'est que quand on tire la sonnette d'alarme, on a déjà bien tiré sur la corde ?
Tout à fait. C'est souvent presque trop tard, où l'individu a déjà perdu pas mal de plumes. C'est l'entourage familial qui va s'apercevoir dans un premier temps que la personne change, que la personne est sous stress, que la personne commence à s'isoler. Les collègues peuvent aussi s'apercevoir de ça. Après, c'est aussi délicat hein, de le faire remarquer, de faire prendre conscience à la personne qu'elle est en train de trop tirer sur la corde. Et justement, quand on a une personnalité qui veut bien faire les choses, qui a tendance à se dépasser, on a tendance justement à trop tirer sur la corde.
Est-ce qu'une des craintes, c'est aussi peut-être le fait que si l'on avoue aux collègues, bon, ça commence à devenir dur, du coup on soit mis dans les bureaux et qu'on quitte le terrain alors que le terrain est plutôt un stimulant ?
Certains policiers vont préférer avoir un poste plus calme à certaines périodes de leur carrière. Peut-être que les jeunes sont plus motivés, hein, j'imagine, par ce travail excitant du terrain. Peut-être qu'au bout d'un moment, quand on a fait nos preuves, quand on a fait un peu le tour du terrain, ça serait intéressant de visiter d'autres postes et de favoriser la mobilité chez les policiers. On sait qu'à l'heure actuelle, c'est les compétences hein, qui sont mises en avant de flexibilité, de mobilité, de changement permanent, alors que la structure hiérarchique de la police est plutôt rigide et ne va pas forcément favoriser tous ces partenariats à l'externe et ces collaborations.
C'est pas si simple de changer de poste, est-ce que vous nous dites ?
Tout à fait.
Est-ce qu'il peut aussi y avoir des conséquences parce que, bon, voilà, on est flic la journée et puis il y a le soir, il y a le week-end si on ne travaille pas. Dans les relations sociales, le fait de faire ce métier-là, est-ce que ça peut aussi avoir des impacts quand on commence à être fatigué ?
Bien entendu, certains policiers m'ont confié s'inquiéter beaucoup d'être devenu insensible. Parce que finalement, dans une intervention, c'est protecteur de se couper des émotions. Donc c'est une protection qui fonctionne bien. Par contre, c'est extrêmement important à la fin de la journée de se reconnecter à ses émotions. Sinon, on risque de s'installer dans une insensibilité et de ne plus du tout être en contact avec toutes les émotions et même la joie de vivre. Du coup, de se reconnecter à ses émotions, c'est extrêmement important, effectivement.
Certains ne ressentent même plus la joie dans les témoignages que vous avez pu avoir.
Voilà, tout à fait. Et puis, ils se sentent très en décalage avec la société, avec leurs amis, parce que, avec les choses atroces hein, auxquelles ils sont confrontés, quand ils entendent les problèmes de leurs amis, ils les trouvent futiles. Et c'est compliqué de garder une vie sociale normale.
Magdalena Bourba, je vous propose qu'on se retrouve après un titre de l'auteur-compositeur Roman K pour évoquer l'importance de la personnalité des policiers dans le fait de tenir plus ou moins bien le choc.
J'en ai marre d'être un flicard. Moi j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Tu crois peut-être que ça me fait marrer, balancer des contraventions, et de surveiller ta chaussée, petit con, moi j'en ai marre. Contenir les manifestants, se faire bombarder de pétards. Tu crois peut-être que c'est bon dans le petit anard. Moi j'en ai marre. Je voudrais bien passer la barrière et vivre de l'autre côté avec les clodos, les grands-mères et les drogués. Mais autre part, j'en ai marre d'être un flicard. Ouais, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je voudrais bien partir à la mer, voir de la ville au scrogne-mieux, et puis troquer mon revolver contre un peu de ciel bleu, bleu, bleu. Est-ce que lundi je vais rentrer bosser sous mon képi azur pour me faire traiter de poulet? C'est pas si sûr, il faudra voir. J'en ai marre d'être un flicard. Ouais, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je pourrais faire du bénévolat pour les enfants des émigrés. Je pourrais partir à Ouaga ou à Calais, à Zanzibar. Tant pis pour ma grosse moto et pour mon super gyrophare, pour ma combinaison costaud et mon pétard. Je me barre. Je me barre, je me barre, je me barre. Là, je suis assis sur la plage, et y a le bruit de l'océan. J'ai ramassé des coquillages comme un enfant, et c'est le panard.
Le flicard, c'est signé K. Ce matin, dans Tribu, on parle du burn-out des policiers. Alors, le fait d'en avoir marre, l'envie de changer de métier, de quitter le képi. Magdalena Bourba, est-ce que c'est une envie qui est répandue? Est-ce qu'il y a un turnover important chez les policiers?
Alors, je ne connais pas exactement les chiffres du turnover qu'il existe dans les institutions policières. Par contre, c'est une profession qu'on choisit à vie. Et du coup, c'est un décalage avec la société actuelle dans laquelle on dit que si on ne quitte pas une entreprise après 10 ans, on n'est plus employable.
Alors que là, c'est presque une vocation.
C'est presque une vocation et ça ne correspond plus vraiment aux générations modernes, plus récentes, actuelles, qui ont grandi dans un changement permanent. Et d'où l'importance d'ouvrir sur des partenariats à l'externe et favoriser le développement des compétences et surtout l'autonomie des policiers pour qu'ils puissent s'épanouir au sein de l'institution policière.
Vous avez l'impression que pour les jeunes, quelque part, c'est plus compliqué puisqu'ils entrent dans une structure qui est où on faisait toute sa vie, quoi.
Tout à fait, c'est une structure assez rigide qu'on peut qualifier de paramilitaire, une hiérarchie très très forte, ce qui a pas mal d'inconvénients, c'est-à-dire que ça ralentit la transmission de l'information et puis ça ne favorise pas la collaboration, si on veut bien, alors que les jeunes préfèrent, ils vont accorder plus d'importance à l'autorité fondée sur la compétence que l'autorité fondée sur l'ancienneté.
Et là, du coup, il y a un décalage qui se profile pour eux, clairement.
Il y a un décalage et une désillusion. Oui, ouais. Tout à fait, une désillusion dès le moment de l'embauche.
Alors, Magdalena Bourba, dans votre thèse, vous vous êtes intéressée surtout à l'impact de la personnalité sur le burn-out. Alors, d'après vos résultats, qu'est-ce qui est le plus déterminant dans le fait de tenir ou pas? Est-ce que c'est la personnalité ou est-ce que c'est les conditions de travail?
Je vais dire que c'est un peu les deux. La personnalité est le facteur qui est ressorti le plus fortement dans mes résultats. Cela dit, il peut y avoir un biais de méthode parce que quand on remplit des questionnaires, la personnalité va contaminer l'ensemble des réponses. Donc c'est des résultats à prendre avec précaution. Cela dit, les personnalités avec une facette de névrosisme élevé, c'est-à-dire d'instabilité émotionnelle, de vulnérabilité au stress, vont être davantage vulnérables au burn-out. Alors que les personnalités plus consciencieuses, les personnalités plus ouvertes, extraverties vont être protégées du burn-out.
Quand vous dites consciencieuse, on se dit ça peut être un piège parce que si on a envie de toujours bien faire, on évoquait les multirécidivistes, ça doit être usant. Donc est-ce que vraiment ça protège le fait d'être consciencieux?
Alors je fais la différence, la distinction entre la conscience et puis le perfectionnisme. La conscience va amener les gens à être organisés, à prévoir le temps nécessaire pour faire un travail. Ils vont être conscients du temps qu'ils auront besoin pour fournir un résultat et du coup ils seront plus efficaces si on veut
mieux
bien.
Mieux organisés,
tout à fait. Alors que les personnes perfectionnistes vont viser des résultats beaucoup trop élevés et vont s'engager dans des travaux qui sont interminables, jamais suffisamment bien, et c'est ça qui use davantage.
Et le fait d'être introverti, alors ça serait aussi un facteur qui aurait tendance à aggraver les risques de burn-out?
C'est-à-dire que l'extraversion va pousser à être davantage à la recherche de soutien social, de parler plus facilement, de décharger du coup les émotions par le langage, avec des rencontres avec des amis ou des collègues. Et du coup, ça fait une soupape non négligeable de pouvoir être extraverti.
Vous êtes psychologue, vous nous parlez d'émotions. Est-ce qu'on parle d'émotions quand on est flic? Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte? Est-ce qu'il y a des débriefings où on ose dire que ça a été lourd? Enfin, ou est-ce que, comme un mec, on monte pas trop ses émotions?
Non, alors c'est compliqué de montrer ses émotions au sein des institutions policières. Les policiers vont plus avoir recours à de l'humour noir, par exemple, qui va les lier ensemble et qui va permettre de décharger les émotions, mais pas en tant que telle. C'est pas la sensibilité qui est valorisée, mais plutôt le fait de se montrer fort. Après, oui, bien sûr, il y a des débriefings qui sont proposés, il y a des unités de soutien psychologique, mais à nouveau, c'est important que les policiers puissent faire confiance à ces structures à l'interne.
Est-ce que on évoquait l'importance du terrain, vous nous disiez c'est beaucoup plus moteur que de faire des procédures dans un bureau qui sont un peu casse-pieds. Le fait d'être passionné par son travail, parce que c'est un métier dans lequel on peut vraiment vivre une passion totale, est-ce que ça c'est aidant?
Ça peut être aidant jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que si on y met beaucoup trop de cœur, si on a trop d'attentes, on risque d'être désillusionné finalement de mal vivre la rencontre avec le terrain. Peut-être que de mieux préparer à la réalité de terrain, à informer les policiers qui vont avoir beaucoup d'administratifs à faire, qu'ils auront peut-être plus d'insultes que de remerciements de la part des usagers, de mieux les préparer à s'attendre à ce quoi ils vont être confrontés pourrait éviter ces désillusions.
Est-ce que la phase la plus compliquée, finalement, c'est le début de cette profession, les premières années, et puis après, on a sa carapace, ça va? Ou pas forcément?
Pas forcément. Il y a des personnes, justement, qui s'enflamment très fortement au début et qui sont désillusionnées. Ces personnes vont probablement quitter très vite l'institution. Et puis d'autres où ça s'installe dans la durée, petit à petit, où on se consume, où on s'use. Le système hiérarchique fait que finalement, plus on est ancien, plus on a des postes à responsabilité, plus c'est des postes confortables, plus on peut avoir de l'autonomie, prendre des initiatives, et du coup, c'est des facteurs protecteurs de burn-out. Donc effectivement, dans les résultats, plus on est âgé, plus on a des postes à responsabilité, plus on est protégé du burn-out et engagé dans son travail.
Est-ce qu'il y a également des problèmes d'addiction? Alors, je vais pas aller dans les clichés, mais on se dit, si on est dans un milieu où il y a beaucoup d'émotions, qu'on peut pas les sortir, parfois ça aide.
Tout à fait, je pense que le policier reste un être humain et donc comme n'importe quel être humain, il pourrait avoir recours à un moment donné, soit à l'alcool, soit à des substances pour tenter de gérer les émotions. D'où l'importance de favoriser des cours de développement de personnel où on peut aider la personne à gérer ses émotions, à gérer ses réactions d'une autre manière que par des substances qui sont très nocives finalement à long terme.
Alors Magdalena Bourba, vous avez recueilli des questionnaires, près de 900, c'est beaucoup.
Oui, c'est énormément.
Ça concernait toutes les polices de Suisse romande ?
Tous les cantons romands étaient impliqués et ont répondu favorablement, excepté le canton de Fribourg. Et puis c'est la police municipale de Lausanne qui est venue remplacer le canton de Fribourg parce qu'elle est comparable en taille à des polices cantonales.
Vous avez également mené des entretiens particuliers avec des personnes en situation de fragilité, on va dire, proches du burn-out. Est-ce que ces personnes-là, elles ont conscience de ce que vous nous dites, c'est-à-dire de l'importance de la personnalité, pas simplement des conditions de travail ?
C'est vrai que dans les interviews, les policiers ont surtout pointé du doigt des causes extérieures, des difficultés réelles qu'ils rencontrent sur le terrain, des difficultés à l'interne de l'institution. Et puis les questionnaires ont davantage mis en évidence la personnalité comme un facteur très fort, explicatif. Donc ça laisse penser que les personnes ont tendance à ne pas bien se connaître et puis ça met en évidence un biais qui est assez connu en psychologie, c'est-à-dire le biais d'attribution.
C'est-à-dire ?
Quand il nous arrive quelque chose, on a tendance, quand il nous arrive quelque chose de négatif, on a tendance à dire que c'est à cause des causes extérieures, à cause de la malchance, à cause des personnes. Alors que finalement, s'il arrive quelque chose de négatif à quelqu'un d'autre, on a tendance à penser qu'il y est forcément pour quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu.
Et donc, on a tendance, en tout cas chez les policiers comme ailleurs, à ne pas assez tenir compte de l'histoire personnelle qu'on peut avoir, de son vécu. C'est ça un peu. Ça manque d'introspection.
C'est-à-dire que la personnalité qui on est, notre manière de penser, nos émotions, c'est finalement la seule chose sur laquelle on peut avoir un plein pouvoir. On ne peut pas vraiment changer les autres, donc on peut finalement beaucoup brasser de l'air en essayant de changer la réalité extérieure, alors que finalement si on s'attaquait plutôt à nos propres émotions, à nos propres pensées, on aurait davantage de résultats rapidement, car c'est là-dessus qu'on a le plus de pouvoir.
Mais en même temps qu'on voit les horaires que font les policiers, le travail de nuit décalé, les week-ends, etc. Ça a un impact quand même sur la santé, sur le fait que tout d'un coup, on va craquer.
Bien entendu, toutes les professions qui ont des horaires décalés sont atteintes dans leur santé au bout d'un moment. C'est quelque chose de très usant, mais on ne peut pas vraiment faire différemment. Le métier de policier répond vraiment à un besoin social et on a besoin d'une présence 24 heures sur 24. Alors peut-être, je ne sais pas, mieux répartir ces tournus au lieu simplement les assigner à quelques policiers.
Alors justement, au terme de votre étude, vous suggérez des améliorations possibles. Qu'est-ce que vous mettez en avant ? Qu'est-ce qui pourrait vraiment limiter ces risques ?
Alors j'aurais envie de proposer des interventions axées sur l'individu, c'est-à-dire vraiment donner de l'importance à la formation continue, ciblée pour chacun, personnalisée pour chacun, afin de mieux gérer les difficultés personnelles que peuvent rencontrer tout chacun.
Donc il y a un suivi individuel où on peut parler de ses émotions, qui est quelque chose de l'ordre d'un suivi psychologique.
Voilà, suivi psychologique, coaching, formation continue, quelque chose d'assez ciblé pour ne pas perdre du temps dans le vide.
Et sur cette hiérarchie très rigide, vous nous disiez, militaire, là, il y a quelque chose à faire, on imagine.
Bien sûr. Oui, je recommanderais d'assouplir cette hiérarchie et puis aussi de faire une analyse institutionnelle afin d'éliminer et de supprimer toutes les tâches qui sont inutiles. Alléger les procédures surtout, et ça, c'est possible.
Donc là, comme dans d'autres métiers, on est submergé par la paperasse. Et ça, c'est un des gros problèmes de notre époque, finalement.
Tout à fait. Oui, alors qu'on pourrait se passer de la plupart des formulaires administratifs.
Magdalena Bourba, une dernière petite question. Pourquoi vous êtes intéressée aux policiers ?
Oh, c'est un métier au cœur de l'action et j'aime aussi particulièrement l'action.
Voilà. Merci en tout cas à vous d'être venu dans Tribu ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et que votre thèse sur le burn-out des policiers vient d'être publiée. Vous êtes également psychothérapeute et vous recevez d'autres personnes que des policiers. Voilà. À la technique ce matin, Luana Biadici. Et puis si vous êtes intéressé par ces émissions Tribu, vous pouvez les réécouter sur notre site rts.ch/tribu. Demain, on va rester dans le vaste domaine de la psychologie, mais cette fois, on va la mêler à l'écologie. On va parler d'éco-psychologie. Qu'est-ce que la psychologie a à nous dire de notre déconnexion avec la nature? Comment cette nouvelle approche prend en compte les dépressions liées à la crise climatique? J'aurai le plaisir de recevoir Sarah Koller. Mais dans l'immédiat, votre matinée se poursuit à l'écoute de la première, direction Le Valais, où vous attendent les décodeurs et Laurence Bizan.